Alors, moi, je me suis intéressée donc, aux visites patrimoniales sous l'angle donc, de la médiation culturelle, en me demandant donc, si les dispositifs numériques pouvaient permettre une meilleure appropriation, et donc peut-être davantage d'affect, une meilleure appropriation donc, du lieu patrimonial par les visiteurs. Donc, les exemples que j'ai pris sont plutôt patrimoniaux. J'ai essayé de répondre à la question de manière simple, hein, très un peu binaire justement, réalité augmentée, réalité diminuée, et donc de voir si on peut augmenter le patrimoine, hein, et donc toujours dans cette dimension par rapport à la réalité, augmenter le patrimoine via le numérique. Sachant que donc la plupart des dispositifs numériques d'aide à la visite proposent de découvrir un patrimoine augmenté, alors augmenté d'un certain nombre d'apports, hein, qu'ils soient informationnels, scientifiques ou artistiques. Donc c'est un petit peu ce que je vais appréhender d'abord. Donc augmenter les apports informationnels, donc dans l'idée d'accroître l'affectif, puisqu'on permet de mieux faire comprendre, connaître et donc peut-être ressentir le monument. Donc il y a différentes modalités de médiation numérique qui relèvent ainsi d'une médiation documentaire, hein, et qui permettent d'apporter un certain nombre d'éléments sur le lieu. Alors c'est ce qu'on peut évoquer sous le terme de documentarisation des contenus, donc l'utilisation de ces dispositifs numériques pour documenter les contenus, qu'il s'agisse de collections, de musées ou de lieux. Alors là c'est un exemple, hein, avec la base Joconde qui permet, qui est donc le portail des collections des musées de France et qui permet de documenter les collections des musées et donc qui permettent de décrire les collections pour mieux les appréhender. Par rapport au lieu, on a aussi un certain nombre de sites internet en fait qui mettent en relation des documents avec un lieu. Et là, je pense à la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel sur internet, avec une collaboration, hein, d'université, du CNRS, de la ville d'Avranches, et qui permet de mettre à disposition du public des archives qui autrefois ou des documents qui étaient autrefois cachés dans les bibliothèques, de manière plus simple, plus accessible. Et ce qui permet au public, finalement, qui est intéressé par le lieu, de se documenter plus facilement. Donc, comme l'exprime Benjamin Barbier, le numérique permet du point de vue de l'usager un accès étendu à des objets qui n'étaient autrefois accessibles qu'à un nombre réduit de privilégiés. Des documents qui ne quittaient pas les réserves ou, s'ils les quittaient, n'étaient visibles qu'après la mise en place d'un certain nombre de mesures préventives, distances de sécurité, vitrines, alarmes, qui sont aujourd'hui accessibles au plus grand nombre via un simple navigateur. Alors. Donc on est bien dans un dispositif de médiation qui aide à une meilleure appropriation du lieu, donc comme on le voit ici. Alors l'idée, comme l'a bien dit Lamizé aussi, c'est d'utiliser ce type de dispositif dans le sens de traduction, de connexion et de lien avec le lieu. Alors, je passe très vite, hein, parce que sinon je risque de m'éparpiller encore. On a un certain nombre de dispositifs, en fait, qui vont utiliser ce rapport au lieu, hein, et les outils numériques pour essayer d'accroître l'affectif. Donc, je pense par exemple à ce dispositif qui est à la Chartreuse, à Villeneuve-les-Avignon, une table tactile qui permet de documenter le lieu. Donc, on part d'une maquette virtuelle, et à partir des lieux, on peut retrouver, enfin, on va pouvoir lire un certain nombre de documents qui vont retracer l'histoire du lieu et donc peut-être permettre de mieux comprendre en fait le lieu à travers une approche à la fois spatiale et chronologique. Et donc un certain nombre de photos, par exemple, donc des données patrimoniales, archéologiques, historiques, qui tiennent aussi à la restauration du lieu. Donc c'est aussi un lieu qui est utilisé beaucoup dans le spectacle vivant en fait, puisqu'il est utilisé notamment au moment du Festival d'Avignon. pavillon. Et donc, on va avoir accès à des photographies de performances qui ont eu lieu dans le lieu. On va avoir aussi accès, par exemple, à des images qui évoquent la Chartreuse dans les années 70, à une période où la Chartreuse était habitée. Faisait partie de la ville de Villeneuve-les-Avignon et donc n'était pas du tout un centre culturel comme aujourd'hui, un petit peu mis à l'écart de la ville, mais était habité, donc une Chartreuse qui était donc qui est un monastère à la base, mais qui avait une discothèque, une épicerie, etc. et donc qui était habité. Et donc on va avoir toutes ces facettes en fait du lieu qui vont être mises à disposition grâce à cette table tactile. Pardon. donc on peut avoir des contextualisations géographiques, etc. Ensuite, deuxième apport du numérique, ça va être en termes de médiation des savoirs et non plus en termes de médiation documentaire. Et là, ça a trait davantage à la vulgarisation scientifique. Donc là, on prolonge un petit peu ces dispositifs de médiation documentaire. Et là, il s'agit de donner une nouvelle dimension au lieu par l'ajout de données scientifiques. C'est donner à voir un monument qui n'existe plus aujourd'hui, par exemple. Ça va être la mise en images d'apports scientifiques de chercheurs dans des domaines tels que l'histoire ou l'archéologie, par exemple. Et là, l'image que je vous montre ici, c'est celle du projet Bretèse qui est mené par Mylène Pardouin. Là, l'idée, c'est d'écouter. Pour une fois, on sort de l'image et on passe par le son. L'idée, c'est d'écouter le Paris du XVIIIe siècle avec une reconstitution de l'ambiance sonore du quartier du Grand Châtelet à Paris au XVIIIe. Donc un projet qui associe à la fois des historiens, des spécialistes de 3D. Alors l'idée, c'est de retrouver les sons du Moyen-Âge, de les assembler pour reconstituer un paysage sonore, réaliser des tableaux, 70 tableaux environ, qui mettent en scène les activités des gens, des marchands, des artisans, les lavandières au XVIIIe, mais aussi la diversité des acoustiques possibles, puisque on va donner à entendre l'écho sous un pont, l'acoustique spécifique d'un passage couvert, etc. Donc là, on va prendre en compte, pour le rendu, les matériaux des bâtiments, leur hauteur, etc., pour essayer de reconstituer, entre guillemets, hein, autant que possible, l'ambiance sonore du lieu. Donc ça permet, ce dispositif hein, permet de mieux connaître, donner à percevoir les lieux comme on ne peut plus le faire. Hein. C'est une évocation qui donne à voir comment les chercheurs se représentent cet espace compte tenu des sources et des données recueillies. Donc ça, c'est les propos de Jessica de Bidoran. Cette évocation oblige les chercheurs à se poser des questions qu'ils ne se poseraient pas forcément autrement, ou pas de cette manière, en termes de couleurs, de matières, de décorations, d'éléments qui pourraient passer pour superflus, mais qui sont des éléments d'histoire sociale et des mentalités, et qui permettent donc de renouveler les connaissances sur l'histoire de l'édifice ou de la ville, par exemple. Donc cette reconstitution d'un passé révolu essaie, en tout cas se donne comme objectif de donner à ressentir le passé, donc c'est une réalité augmentée de contenu scientifique et aussi de contenu sensible, hein, puisqu'on essaye de toucher le visiteur de cette manière-là. Donc l'apport scientifique est corrélé souvent à une logique immersive dans ces cadres de reconstitution en réalité augmentée. L'idée est donc aussi de transformer l'apport scientifique qui se fait généralement sous forme de texte, hein, ou en tout cas de communication orale sinon, mais sous la forme d'un produit qui soit plus matériel, qui soit davantage perceptible par le visiteur. Donc pour Jessica de Bidoran, c'est un changement important, changement profond du paradigme muséologique, où l'exposition n'est plus centrée sur la présentation distanciée d'objets, mais sur l'expérimentation de connaissances patrimoniales mises en scène. Donc là, on est sur la mise en spectacle du patrimoine, en fait, et aussi des connaissances scientifiques. Donc transformer ce qui est de l'ordre de l'information finalement en expérience pour le visiteur, et ça veut dire qu'on va ajouter une dimension séduisante aussi à ces données scientifiques. Donc c'est comme ça qu'on va ajouter des couleurs vives, du mobilier, de la décoration aux lieux patrimoniaux hein, qu'on visite généralement vides, pour en rajouter finalement sur cette impression de revivre le passé. Bon, j'y reviendrai. Alors, donc on va utiliser un certain nombre de codes, enfin, et puis d'éléments graphiques, en fait, toujours dans cette optique de séduire le visiteur. Alors, troisième élément, ça va être aussi d'ajouter une dimension esthétique ou artistique, d'essayer de toucher le visiteur en lui donnant à ressentir davantage, on va dire, certaines qualités intrinsèques du lieu ou en ajoutant a posteriori. Alors, je pense ici, c'est un exemple aussi qui est tiré de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, tout simplement de rendre plus palpable, grâce au dispositif numérique, les beautés d'un monument. Donc ici, hein, on a il y a eu des relevés numériques, puis une modélisation 3D de la chapelle des fresques, donc dans la Chartreuse, et ce qui permet de donner à voir aux visiteurs sur tablette les détails de la chapelle des fresques. Donc le visiteur a la possibilité de visiter et de voir cette chapelle, mais comme elle est très haute, en fait, il n'a pas accès à tous les détails, en fait, de ces fresques magnifiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner à voir, de donner à percevoir de manière plus proche, hein, d'ajouter de la proximité pour le visiteur. Bon, bien sûr, ce dispositif a été aussi créé à des fins d'accessibilité aussi, puisque la chapelle n'était pas très accessible pour les personnes handicapées, en fait. Donc, on est toujours dans cette double logique. L'idée, c'est aussi sans doute de déclencher l'émotion esthétique. Hein. C'est le fameux syndrome de Stendhal qui fait référence à la réaction émotionnelle que Stendhal avait eue devant la beauté sublime de l'art, telle qu'il l'a décrit dans Rome, Naples et Florence. Donc là, c'est de susciter l'émotion du visiteur. Bon, c'est la même logique, hein, qui prévaut dans les carrières de lumière près de Saint-Rémy-de-Provence, où finalement la société Culture Espace donne à voir par mapping des tableaux, des détails de tableaux ou de fresques, si tu peux, voilà. La suivante. Voilà, les détails de fresques avec une mise en scène. Hein. Il y a aussi beaucoup de sons, beaucoup de musique pour immerger donc toujours le visiteur dans cette dimension, dans l'art. Mais les dispositifs numériques surajoutent aussi à la réalité une dimension esthétique parfois. Alors bien sûr par la mise en scène du contenu, hein, et du parcours, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de dispositifs qui vont rajouter donc de la musique ou rajouter une mise en scène du lieu. Donc là je pense aux vidéos du Toulouse is Beautiful. Donc là l'idée c'était de créer des clips vidéo autour de lieux patrimoniaux, généralement des lieux cachés ou méconnus de Toulouse, avec toujours l'interprétation d'un groupe de musique en fait dans le lieu. Donc là, il s'agissait de faire se rejoindre un groupe de musique et le lieu. Donc là, le choix était. Enfin, j'ai fait des entretiens avec les concepteurs de ces vidéos, et l'idée était vraiment de trouver des morceaux qui soient appropriés selon les musiciens au lieu, mais avec justement l'idée aussi d'interroger les spectateurs de ces vidéos. Donc notamment par exemple la Familia à l'hôpital La Grave, un certain nombre des musiciens de ce groupe-là sont nés à l'hôpital La Grave, et donc c'était une façon aussi de mettre en scène et de parler de leur histoire dans ce lieu. Donc l'idée, c'est de connecter et de créer une résonance particulière, hein, captée par la caméra et proposée aux spectateurs. Alors l'idée, c'est que le croisement des arts permet de stimuler des interprétations et peut-être de donner la possibilité aux visiteurs de se construire sa propre appropriation du lieu. Donc l'idée, c'est que le numérique est aussi une source de dévoilement qui aiderait peut-être à mieux voir et qui serait peut-être aussi une mise en contexte pour stimuler peut-être l'imaginaire et laisser la place à une certaine contemplation. C'est une question. Alors, dernier point sur cette augmentation, c'est l'idée aussi d'ajouter une dimension ludique à la visite du lieu pour susciter, là encore, l'intérêt des visiteurs. Là, c'est souvent une promesse qui est proposée au jeune public, puisqu'on imagine que le jeune public sera plus sensible à la dimension ludique des lieux. Donc là, un certain nombre de jeux sont mis en place. Je pense par exemple à un jeu ludico-culturel à Versailles en 96 sur lequel je passe. Mais l'idée, c'est que des jeux sérieux permettent de mettre la technologie donc, au service de la découverte. Et donc avec l'idée, c'est de faciliter l'apprentissage pour le visiteur. Alors, je passe très vite. Deuxième point. Donc là, j'ai évoqué la réalité augmentée et maintenant la réalité diminuée. Le problème de l'utilisation de ces outils, c'est qu'ils donnent finalement à voir une simple image de la réalité. Là, on est sur des visites patrimoniales. Qu'est-ce qui est intéressant dans le patrimoine, finalement, c'est sa valeur intrinsèque qui est transmise de génération en génération. Et finalement, quand on voit par exemple la vidéo de Toulouse Who is Beautiful, on n'a affaire qu'à une image et toute la valeur qui est liée au lieu et à l'histoire de ce lieu est complètement édulcorée et mise de côté. Et donc c'est quand même un des problèmes majeurs. Donc c'est finalement... mais aussi, par rapport à cette question de l'image, que dire du génie du lieu ou de l'esprit du lieu? Donc, comment dire l'impalpable, le sacré, l'indicible du lieu par le biais de dispositifs technologiques? C'est aussi une perte très importante liée à ces dispositifs. Deuxième point qui m'interroge par rapport à ces nouvelles réalités qui sont données à voir, c'est est-ce qu'elles ne construisent pas une pseudo-réalité ou une fausse réalité? Ce qui est donné à voir est-il forcément la réalité? Donc là, je pense à Weisberg qui, dans un article en 99, dit « Un certain régime de vérité est révolu, celui par lequel l'image enregistrée lors d'une capture directe, photographie, télévision, etc., renvoyée au caractère apparemment immuable du passé, les formules reliant croyance et mise en forme audiovisuelle du monde entrent aujourd'hui en crise. » Et donc là, on est bien dans cette pseudo-réalité qui peut être construite. Et là, je pense à un exemple intéressant avec la reconstitution 3D du pont d'Avignon qui a été menée il y a peu de temps. Donc en fait, c'était l'association... Il y a eu deux projets qui ont été menés en parallèle. À la fois un projet de recherche sur le pont d'Avignon et en même temps un projet sur sa valorisation. Et mon collègue historien Simone Balossino, qui a travaillé sur cette étude, expliquait que finalement, c'est le temps de la recherche a été mis de côté finalement et a été le parent pauvre par rapport à la valorisation. Et que du coup, c'est un certain finalement, la reconstitution qui est proposée aujourd'hui repose sur des hypothèses qui ne sont pas forcément fondées. Et on a tous... tendance à prendre pour argent comptant une image et finalement à avoir moins d'esprit critique par rapport à une image qui nous est proposée sous cette forme, alors que les historiens et les chercheurs eux-mêmes qui ont travaillé sur ce projet-là ne peuvent affirmer de manière aussi péremptoire finalement et aussi affirmative que le pont d'Avignon ressemblait effectivement à ce qui est donné à voir aujourd'hui. Ça va encore un petit peu plus loin. J'en ai fait l'expérience au CNAM il y a 2 ans avec quelqu'un qui proposait une reconstitution avec casque de réalité virtuelle de Paris au Moyen-Âge du haut des tours de Notre-Dame. Et en fait, il a utilisé, quand je l'ai un peu interrogé, il m'expliquait qu'il avait utilisé des plans du 19e siècle pour reconstituer Paris. Donc autant dire que c'était une image complètement tronquée de la réalité. Il était très content de lui parce qu'il aimait bien l'histoire, vous comprenez. Donc il avait l'impression de partager non pas une vision très large de Paris, mais finalement sa propre perception. Et là, ça pose d'autres problèmes. Je passe très très vite. Ensuite, bon, ça c'est plus classique. C'est finalement le problème de quand le dispositif fait écran par rapport au lieu. Et donc là, on en a tous l'expérience, hein, c'est tête baissée ou tête haute quand on a une tablette dans les mains. C'est aussi le problème de la fréquentation touristique des lieux. Je pense au Palais des Papes qui vient d'être doté donc, d'un histopade, une tablette qui est proposée à tous les visiteurs. Le problème, c'est que le Palais des Papes, c'est 700 000 visiteurs par an, 4 500 par jour en été, et donc ils n'ont aucune idée de comment ils vont faire là cet été, puisque c'est le premier été de la mise en œuvre du dispositif, pour permettre aux visiteurs d'avoir une visite un tant soit peu agréable, d'autant plus qu'il faut quand même rapprocher la tablette d'un certain nombre de points pour avoir accès aux reconstitutions. Donc on imagine les problèmes. Ensuite, dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est sur l'expérience sensorielle. C'est-à-dire que évidemment, enfin, on s'intéresse au corps du visiteur dans le lieu. Et là, finalement, on est face à un appauvrissement, puisque c'est essentiellement la vue et un petit peu l'ouïe qui est stimulée parfois. Et encore, l'ouïe, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on les utilise généralement des contenus en Creative Commons qui sont de courte durée, qui ne sont pas forcément de qualité. Et donc, je pense qu'on en a tous fait l'expérience de contenus qui sont assez désagréables parce que très, très répétitifs et puis qui ajoutent un côté sensationnel et très désagréable. Et donc, la question de tout ce qui est odeur, par exemple, est très importante. Maintenant, là, par contre, il y a des expérimentations qui sont faites, hein, mais qui ne sont pas encore très évoluées, sur, par exemple, des mettre de l'odeur sur les casques de réalité virtuelle pour augmenter l'effet immersif. Mais tout ça pose d'énormes questions. Je ne parle même pas de l'hygiène, hein, puisque on est obligé de penser à ça en termes de santé publique, ce que c'est que de mettre des casques les uns après les autres, etc. Donc voilà, je terminerai là-dessus pour laisser un peu de place à mes camarades. Merci.